Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». L'émission de cette semaine est consacrée à un thème qui est également choisi par la revue politique et parlementaire, notre partenaire, ce trimestre. Aimons-nous encore la liberté ? Un sujet extrêmement vaste, mais sur lequel nous allons revenir avec nos invités. Notre première invitée, c'est Christophe Pébart. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, et vous avez contribué au numéro de la revue avec un article co-signé avec Barbara Stiegler, qui est philosophe et professeure dans la même université que vous. Et cet article qui s'appelle « Cécité libérale, derrière l'écran des libertés individuelles de la démocratie », eh bien, aborde une thèse finalement extrêmement, je dirais, vivifiante, puisque elle suppose que, en abandonnant la liberté des anciens, les modernes ont construit un système très élaboré de liberté individuelle, de droits individuels, mais qui finalement, réduit le champ démocratique des libertés politiques. Et finalement, c'est assez paradoxal de dire, puisque vous l'écrivez, que ce sont les libéraux finalement qui, paradoxalement, ont créé les conditions d'une société plus illibérale.
Oui, c'est exactement ça. Et je crois qu'on pourrait commencer par, au préalable, rappeler le constat que nous avons tous et toutes fait pendant la période de la pandémie. C'est l'effondrement des libertés individuelles avec quasiment pas ou très peu de voix discordantes, y compris de la part de celles et ceux qui étaient identifiés et qui sont toujours identifiés comme des libéraux. À peine a-t-on entendu quelques voix, mais presque libertariennes, on pourrait dire, allant jusqu'à accepter une sorte d'opposition entre la liberté individuelle et la vie, l'existence, la santé, et donc rendant leurs revendications, peu crédibles et peu entendables. Donc c'est ce constat, je crois, qui a nourri notre réflexion commune à Barbara Stiegler et à moi-même, notre réflexion s'est nourrie d'abord de ce constat. C'est-à-dire, comment est-il pensable que dans une société, et dans des sociétés qui ont porté au pinacle la liberté, en particulier la liberté individuelle ou les libertés individuelles, comment ces sociétés ont pu, accepter avec tant de facilité en quelques jours ou quelques heures que les principes fondamentaux de ces dites libertés aient pu s'effondrer, aient pu être, remis en cause, annulés. Je rappelle quand même qu'il s'agit des principes fondamentaux, le droit de sortir, des choses avec on a même eu parfois des tentations de la part des gouvernants, de rentrer jusque dans les appartements et les maisons pour faire le plan de table à Noël, combien on devait être. Et d'ailleurs, on voit que ça continue maintenant, puisqu'on en est à savoir si on doit porter une chemise ou un col roulé quand on est un homme. Donc on voit qu'il y a comme ça une sorte de mouvement qui a été pris, qui n'est pas en train de s'arrêter. Donc ça, c'est notre constat de départ. Et donc, nous avons, à l'aune de nos propres travaux, Barbara Stiegler, du fait de ses réflexions et son analyse sur le néolibéralisme, dans son livre « Il faut s'adapter », et moi-même, qui suis spécialiste de la démocratie athénienne, donc dans mon ouvrage « L'autre démocratie » à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, nous avons été confrontés à cette question de la liberté, mais de façon différente. Pour moi, il s'est agi de voir et de constater qu'au 19e siècle, disons à la fin du 18e, au début du 19e siècle, un basculement s'est opéré sur fond de résolution du conflit entre les anciens et les modernes. Comme l'a bien montré François Hartog, un nouveau régime d'historicité s'installe à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, qui est marqué par l'idée qu'un temps nouveau s'ouvre qui ne peut plus faire référence aux anciens et qui est donc pris dans un mouvement vers l'avant, qui doit donc inventer de nouvelles conditions de vie. Ce nouveau régime d'historicité requiert d'énoncer une rupture radicale entre les anciens et les modernes, ce que fait notamment Benjamin Constant dans sa conférence célèbre de 1819, de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. Alors, comment s'opère cette rupture? En fait, elle s'opère par une réduction de la réflexion à l'individu. C'est-à-dire que le mouvement premier est de considérer que ce qui est central désormais, c'est l'individu et sa dite liberté. Donc Benjamin Constant va construire un modèle pour essentiel théorique, hein, plus qu'appuyé sur des connaissances historiques, dans lequel il y a désormais une liberté moderne qui suppose au fond d'être le moins soumis possible à une autorité collective, qui est donc le droit de s'occuper de ses propres affaires, avec moins de contraintes, et bien cette liberté est opposée à une liberté collective qui serait la liberté d'un démos, du peuple, donc à se gouverner, mais qui, en raison même de cette liberté collective, entraînerait une réduction quasi à néant de toute forme de liberté individuelle, tant l'impératif du collectif l'emporterait sur les impératifs individuels. Et cette réduction conduit, de manière mécanique, à oublier totalement la question du gouvernement. C'est-à-dire que désormais, la modernité libérale se définit par une sorte d'extension quasi illimitée de droits individuels. Et plus les droits individuels sont étendus, plus nous sommes en démocratie. Pour ne prendre qu'un seul exemple, il suffit de voir comment nous associons de manière mécanique la démocratie au fait que les hommes et les femmes votent de manière égale. Et on considère que c'est un progrès démocratique que les femmes votent de la même façon que les hommes. Alors, on peut dire, bah, oui, bien sûr, mais ce faisant, on ne s'intéresse pas à ce que le vote permet de faire. C'est-à-dire, est-ce que le vote permet de gouverner effectivement, auquel cas la démocratie serait réalisée, ou bien est-ce que ce vote permet simplement de désigner des représentants qui, eux, gouvernent en nous consultant ou en tenant compte de nos aspirations, plus ou moins. On voit bien que ici, il y a une sorte de glissement, puisque la démocratie ne devient effective que pour des individus isolés et plus pour des individus assemblés, rassemblés dans un démos.
Alors, cette opposition entre la liberté des anciens et la liberté des modernes, elle est au cœur de votre raisonnement, puisqu'effectivement, vous expliquez bien que la liberté moderne, c'est de protéger l'indépendance du citoyen contre le pouvoir du gouvernement, alors que celle des anciens, et vous remontez effectivement à la Grèce antique et au système de pouvoir athénien, c'était au contraire de s'assurer que le citoyen ait la plus grande capacité à exercer le pouvoir. Et donc, finalement, vous décrivez un petit peu, quelque part, la crise de la démocratie actuelle, où de plus en plus de citoyens se sentent dépossédés de la définition de l'intérêt général et des priorités du gouvernement, au profit d'une extension illimitée des libertés individuelles, mais qui, semble-t-il, ne suffisent plus ou ne suffisent pas à satisfaire, je dirais, la soif de citoyenneté de nos concitoyens, et ce, un petit peu dans toutes les grandes démocraties.
Exactement, c'est-à-dire que souvent, la crise, enfin, ce qu'on a coutume d'appeler la crise de la démocratie, a souvent été réduite à une forme de pulsion autoritaire, hein, qui viendrait des peuples, qui, lassés de délibérations infinies, souhaiteraient un pouvoir fort, un chef charismatique, qui indiquerait la bonne direction. C'est faire peu de cas, je trouve, et nous trouvons avec Barbara Stiegler, de nombreuses revendications démocratiques, au sens plein du terme, c'est-à-dire de demandes de participation effective au gouvernement des affaires communes, qui sont pourtant régulièrement exprimées. Pensons simplement à l'épisode des Gilets jaunes, qui très rapidement a mis en son centre la question démocratique. Alors, qu'on soit d'accord ou non avec les demandes, référendum, etc., il n'en demeure pas moins que la question qui était posée était bien celle de la démocratie. Hein, c'est-à-dire le fait que des citoyens disaient « nous ne gouvernons pas ». Et je préfère dire « nous ne gouvernons pas » que « nous ne gouvernons plus », puisque le constat est celui d'une absence effective de gouvernement du peuple par lui-même, et non une sorte de dégradation qui aurait vu le pouvoir, en quelque sorte, devenir de plus en plus autoritaire ou isolé du peuple qu'il est censé exprimer. Donc, pour nous, cette crise, en fait, elle est avant tout, ou elle peut être vue comme avant tout une demande de démocratie et non une remise en cause de la démocratie. Et je crois que nous sommes dans un contexte extraordinairement fécond pour que cette réflexion soit entendue et que la défiance à l'égard de la démocratie soit non plus associée à des peurs, à des craintes, à des émotions, à une forme d'irrationalité collective ou à de la désinformation, mais bien au contraire à une volonté d'une instauration démocratique qui est la seule garante de la liberté. C'est ce que nous avons essayé de montrer dans notre article, justement, poursuivant notre constat d'un affaissement des libertés individuelles. Nous l'avons poursuivi, en quelque sorte, contre la chronologie jusqu'à la démocratie athénienne, en rappelant que les Athéniens, eux aussi, étaient tout autant préoccupés que nous des libertés individuelles et que seule la loi permettait de la limiter. Mais ce qui la rendait acceptable, ce qui légitimait l'obéissance à la loi, ce n'était pas le fait qu'elle soit la loi, mais le fait que je la vote directement et surtout...
Et qu'on puisse en proposer d'autres.
C'est ça. En proposer d'autres. C'est-à-dire que la loi, en particulier au 5e siècle avant Jésus-Christ, désolé d'être un peu cuistre sur la chronologie, mais parce que c'est moins vrai au 4e siècle avant Jésus-Christ, en réalité, la loi n'a pas du tout le même statut que pour nous. C'est-à-dire que nous imaginons des textes relativement immuables, qu'on ne doit changer, comme quand on parle de la Constitution, la main tremblante. Mmh. Bon. Donc on a l'idée de quelque chose qui est plutôt un garant de stabilité, et nous insistons beaucoup avec le concept d'état de droit sur la stabilité. Or, pour les Athéniens, cette stabilité représenterait une forme de limitation de leur pouvoir, puisque le démos, le peuple, donc, peut faire ce qu'il a envie de faire. Et s'il a envie de changer les lois, même le lendemain, on a des exemples dans la documentation, eh ben on peut redébattre le lendemain, il n'y a aucun problème, parce que peut-être que nous prendrons la bonne décision. Alors que pour nous, on a toujours l'impression qu'au nom de la continuité de l'État, il y a toute une série comme ça d'éléments qui nous encouragent à poursuivre ce qui est fait plutôt que d'envisager une remise en cause. Et donc, paradoxalement, l'obéissance à la loi ne tient pas à la loi, mais tient à la liberté politique. C'est-à-dire le fait que les citoyens peuvent, à tout moment, remettre en cause une loi, mais pas simplement la remettre en cause sous une forme de désobéissance civile, mais la remettre en cause politiquement à l'Assemblée.
Bah, ce que vous nous dites, finalement, c'est que dans nos démocraties modernes et dans nos états de droit, au nom d'une certaine stabilité, d'un ordre juridique relativement stable, on a réduit la souveraineté populaire à peu de choses, puisque finalement aujourd'hui les moyens d'intervention du citoyen sur les systèmes juridiques et politiques sont devenus assez inexistants en dehors des élections.
Exactement. Et c'est facile de constater que les élections mettent rarement en avant ces problèmes. Et donc, en plus, on n'en parle pas véritablement. Je crois qu'en France, en tout cas, c'est à l'évidence le référendum de 2005 qui a fait apparaître cette question en posant le problème de la constitutionnalisation d'éléments qui relevaient de l'économie et donc, jusque-là, qui relevaient de la politique économique, donc de choix. Le choix qui pouvait être fait. Or, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, ce qui est apparu évident, c'est que sur tout un certain nombre de sujets, il n'y avait plus vraiment de choix. Que les choix étaient faits et ils étaient, au fond, définitifs ou du moins présentés comme tels. On le voit aujourd'hui, hein, avec la question du prix de l'énergie, hein, et à quel point il est difficile pour les gouvernements européens de remettre en cause ce dogme de la concurrence et de la libre circulation des marchandises à partir du moment où, confrontés à de nouvelles conditions, la nécessité éventuelle de changement dans les règles mêmes de la concurrence, voire la limitation de la concurrence, tout en apparaissant comme une possibilité nécessaire à envisager, est en même temps quasiment impossible du fait des traités, comme on dit, des traités européens. Donc ça, c'est un exemple, et je crois que 2005 l'a véritablement mis en évidence. Et on peut dire aussi que ce qui s'est passé pendant la pandémie a également mis en évidence les mêmes choses, hein, c'est-à-dire le fait de buter comme ça sur des lois qui s'imposent à nous sans que jamais on ait véritablement pu en débattre et encore moins les voter.
Alors, ma dernière question, et je rebondis sur ce que vous disiez, où la pandémie a mis finalement en lumière de manière un peu plus crue et un peu plus forte ces renoncements à nos libertés collectives au nom d'un intérêt général. Mais finalement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt général, il n'est plus défini que par l'État lui-même ou par ses institutions. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens qui sont un peu dissonants, qui essayent de faire entendre une autre vision de l'intérêt général, ils sont assez vite marginalisés, pour ne pas dire même écartés de l'espace public comme un peu des dissidents. Et donc, est-ce qu'on n'est pas passé d'une définition de l'État qui était, selon les mots de Max Weber, détenteur d'un monopole de la violence légitime, à un État détenteur d'un monopole sur la définition de l'intérêt général, j'ai envie de dire, quelle que soit l'expression démocratique et quel que soit l'avis des citoyens qui composent la société.
Vous avez raison. Vous savez que Pierre Bourdieu aimait à ajouter dans son cours sur l'État que à ce monopole de la violence physique légitime, il fallait rajouter le monopole de la violence symbolique légitime. Or, précisément, le monopole de la définition de l'intérêt général est à l'évidence une violence symbolique qui est faite à toutes celles et tous ceux qui considèrent que peut-être un autre intérêt général pourrait être envisagé. Je crois que vous touchez là l'un des enjeux majeurs de nos réflexions sur la liberté et la démocratie, hein, à savoir la revendication d'une égalité de tous et toutes dans la possibilité de définir l'intérêt général. C'est ce que les Athéniens appelaient la parésia, hein, qui n'est pas simplement le droit de tout dire, mais également le droit de prétendre dire vrai pour tout le monde, ce qui est bien différent. Et on ne peut que regretter qu'en France, alors même que nous disposons d'un mot tellement puissant et fort pour le dire, que nous pourrions mettre ça au cœur de nos sujets, nous le faisions si peu, hein, ce mot, c'est le mot de laïcité. Car qu'est-ce que la laïcité, sinon le fait de ne pas confondre son intérêt privé, ses croyances, ses valeurs avec l'universel partagé, et la mise en évidence qu'il existe une tension entre nos intérêts privés et l'intérêt général, et que ce n'est pas en renvoyant les uns à l'intérêt privé et les autres à l'intérêt général qu'on s'en sort, mais simplement en acceptant que le processus délibératif, il se compose de deux choses, et j'en termine par là, le fait de penser avec les autres, mais aussi le fait de penser devant les autres. Et c'est parce que nous pensons devant les autres que nous ne pouvons pas nous contenter de la mise en évidence de nos croyances, de notre conception de l'intérêt privé, que les autres peuvent très bien démasquer dans nos propos, et que ce sont bien les autres qui nous imposent de passer à un autre niveau qui est celui de l'intérêt général. Donc on voit que nous manquons cruellement aujourd'hui de lieux, d'instances de délibération collective pour permettre à ce processus d'être opératoire.
Merci Christophe Pébart. Je rappelle que vous êtes historien, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez écrit avec Barbara Stiegler, qui est également philosophe et professeur dans la même université, un article dans la revue politique et parlementaire qui est « Aimons-nous encore la liberté ?». Vous avez traité un des aspects de ce sujet et on a pu en discuter avec vous. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette émission est consacrée justement à la sortie et au thème choisi par la revue pour son dernier numéro « Aimons-nous encore la liberté ?» Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et donc vous êtes aussi un des coordinateurs de ce numéro. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir choisi de parler de la liberté à ce moment-là ?
Oui, alors c'est un numéro qui a été coordonné avec Éric Anceau, l'historien, et Pierre-Antoine Chardel, qui est philosophe et sociologue. Pourquoi nous avons décidé d'en parler? Parce qu'il nous a semblé, si vous voulez, que peut-être qu'à la suite de la crise pandémique, la crise sanitaire, la question de la liberté se reposait d'une autre manière, peut-être, que la façon dont on l'a posée jusqu'à maintenant, puisque finalement, cette crise, au nom d'un principe de protection tout à fait légitime, au demeurant, a donné lieu à, finalement, la décision d'un certain nombre d'États de suspendre des libertés qui sont des libertés tout à fait fondamentales et essentielles, comme par exemple la liberté de circuler, voire la liberté de se réunir également. Donc ce sujet nous est apparu comme un prolongement naturel de cette crise, mais il nous permettait aussi de traiter l'enjeu de la liberté dans ses différentes dimensions, la dimension bien évidemment politique, la dimension liée à la question des libertés publiques, la dimension de la question de la liberté et de l'économie, la question des nouvelles libertés, voire des anciennes libertés, un peu selon le paradigme de Benjamin Constant sur la liberté des anciens et la liberté des modernes, et puis aussi d'essayer de débattre sur ce qu'il pouvait y avoir parfois de contradictoire dans la question des libertés, puisque il y a un certain nombre de libertés qui ne peuvent parfois toujours très bien tenir ensemble. Donc c'est aussi cette question que nous avons voulu aborder dans un dossier qui est très fourni avec des philosophes, des économistes, des politologues, des sociologues et aussi des politiques.
Alors effectivement, c'est un numéro qui est extrêmement dense, riche, puisque à partir de la liberté, on interroge énormément de pans de notre société, l'économie, la laïcité, le pluralisme. Il y a également la question de la société numérique, des nouvelles conquêtes en matière d'expression et donc en apparence de liberté, mais qui posent aussi d'autres questions, en particulier sur les limites de la liberté d'expression, sur l'anonymat. Il y a aussi une question derrière cette thématique, c'est au fond, sommes-nous encore en démocratie au sens où les anciens l'entendaient? C'est-à-dire que finalement, est-ce que on n'a pas abaissé nos libertés collectives au profit d'un individualisme et de libertés individuelles sans limite? C'est un petit peu la question qui traverse beaucoup d'interventions.
Oui, c'est un sujet majeur qui est abordé dans ce dossier, notamment par Pierre Manant. Pierre Manant, qui est un philosophe politique, qui a beaucoup écrit sur notamment la question de la liberté, mais aussi la question de la liberté dans sa relation avec l'égalité, l'évolution aussi des régimes politiques modernes. Il avait écrit notamment dans les années 80 une histoire intellectuelle du libéralisme qui est aujourd'hui un classique en la matière et qui aborde cette question en effet des libertés individuelles et des libertés collectives, comme d'ailleurs sous un autre versant, j'allais dire politique, l'aborde également Barbara Stiegler qui est elle-même aussi philosophe. C'est-à-dire qu'il y avait une tension qui s'était équilibrée, disons, dans la formation du régime républicain, notamment sous la Troisième République, entre les libertés collectives et les libertés individuelles, entre les grandes libertés politiques, avec les grandes libertés publiques, et les droits individuels. Et ce que met en avant un philosophe comme Pierre Manant, notamment, c'est que nous serions entrés dans une séquence ou dans une phase où, finalement, nous avons de plus en plus peut-être de droits individuels, mais de droits individuels qui sont reconnus parfois, en tout cas c'est son interprétation, en tout cas sa lecture, au détriment de nos libertés collectives et des libertés politiques. C'est un vieux débat que l'on retrouve déjà d'une certaine façon dans la description que fait Benjamin Constant de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. Mais il est vrai que dans nos sociétés, notamment sociétés européennes, dans nos sociétés occidentales, parce que la question de la liberté ne se pose pas évidemment dans les mêmes termes selon toutes les civilisations, mais en l'occurrence dans nos sociétés occidentales et notamment dans nos sociétés européennes, on voit bien que la liberté collective, qui est notamment la liberté des peuples, hein, par exemple, qui peut s'exprimer à travers la souveraineté, n'apparaît pas toujours comme une liberté qui est aujourd'hui très bien assise, alors que on voit en effet des revendications en matière de droits individuels, parfois de droits minoritaires, qui sont de plus en plus importantes et qui sont reconnues par les espaces politiques, notamment par un espace politique comme celui de l'Union européenne. Donc c'est aussi cette tension-là qu'on a voulu, disons, réexplorer dans ce numéro, parce qu'elle nous paraît être au cœur des grandes problématiques contemporaines.
Alors c'est tellement vrai que aujourd'hui, on a une actualité brûlante et finalement le fil directeur de cette actualité, c'est souvent la liberté ou son absence de liberté. La liberté des femmes en Iran de ne pas porter un voile qui génère aujourd'hui une révolte de toute une partie de la jeunesse iranienne. La liberté des peuples, avec aujourd'hui l'Ukraine qui défend le droit, je dirais, de son peuple à disposer d'elle-même à côté d'un voisin qui, lui, développe un autre système de pensée qui est plutôt illibéral. Et puis aussi des régimes politiques comme la Chine qui aujourd'hui considère que au nom du primat d'un parti, d'une idéologie, eh bien, la liberté individuelle doit être le plus strictement encadrée possible, voire même elle doit être réduite à peu de choses.
Oui, alors c'est vrai que vous avez raison de parler notamment de l'exemple de la Chine et de l'Iran, parce que c'est une question d'ailleurs que l'on a abordée la semaine dernière dans nos rencontres, les rencontres de la revue politique et parlementaire qui se sont tenues à Saint-Raphaël et qui justement avaient la thématique de la liberté comme sujet central de débat sur cette thématique, aimons-nous encore la liberté. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que la liberté est un produit d'une société donnée, d'une histoire politique donnée, c'est-à-dire pour aller très vite et à gros traits ce qui serait l'histoire de l'Occident, avec l'autonomie de l'individu, l'émancipation de l'individu, des régimes politiques qui respectent un certain nombre de principes de fonctionnement en matière de contre-pouvoir et de garantie des libertés publiques et des libertés individuelles, ou est-ce que c'est une aspiration universelle? Est-ce que c'est un donné universel? La réalité, c'est que quand on regarde historiquement, il est évident que la question de la liberté telle que nous l'entendons aujourd'hui et telle que nous en parlons aujourd'hui lors de notre émission, c'est une notion qui historiquement naît en effet en Europe et plutôt en Occident, mais il n'en demeure pas moins que l'on voit qu'il existe dans un certain nombre de sociétés, la société iranienne est de ce point de vue-là aujourd'hui très intéressante, des aspirations qui sont des aspirations à la liberté. Alors la liberté a quelque chose quand même, malgré les histoires civilisationnelles, quelque chose d'universel, même s'il n'est pas partagé par l'ensemble des régimes politiques. L'autre sujet quand même qu'il faut aborder, c'est que même les régimes aujourd'hui libéraux sont des régimes qui, en tout cas qui se réclament du libéralisme politique, sont des régimes qui ne sont pas à l'abri, et on l'a vu, d'une restriction des libertés, y compris des libertés politiques, y compris de la liberté du débat. Donc c'est aussi un sujet que l'on aborde à l'occasion de ce dossier, qui me paraît être un sujet qui nécessiterait aussi d'être abordé un peu frontalement dans notre espace public. On voit quand même que durant la crise sanitaire, il y a eu une acceptation assez, j'allais dire, massive de mesures qui parfois pouvaient apparaître à un certain nombre de nos compatriotes comme des mesures non seulement attentatoires à nos libertés, mais parfois pas toujours très fondées. Mais on a vu néanmoins quand même les grandes instances qui sont les instances protectrices de nos libertés, qu'il s'agisse du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, avaliser un certain nombre de mesures d'exception, même si aujourd'hui, sortant de l'état d'urgence sanitaire, le fonctionnement normal de la démocratie, il faut le souhaiter, a repris son cours, nonobstant encore la menace épidémique.
Alors, effectivement, il y a une liberté qui fait débat, je dirais presque quotidiennement, surtout à l'heure des réseaux sociaux, c'est la liberté d'expression ou Selon l'article d'Anne-Sophie Chazot, la liberté d'inexpression, et elle parle des formes contemporaines de la censure, et elle cite Rosa Luxembourg qui disait « La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement ». C'est-à-dire que finalement on est dans une société qui officiellement prône la liberté et notamment les libertés d'expression, mais en réalité, et on l'a vu d'ailleurs au moment de la pandémie, on voulait entendre qu'une seule voix, et c'était celle du gouvernement finalement. Les autres voix étaient un petit peu marginalisées et parfois même mis en dehors de l'espace public.
Oui, c'est un sujet qui est très intéressant. Alors c'est vrai que d'abord, si vous voulez, il y a des traditions en matière de liberté d'expression suivant les régimes politiques et à l'intérieur même des démocraties libérales qui sont très différentes. La tradition anglo-saxonne, la tradition américaine, mais même la tradition britannique, fait que la tradition américaine, c'est le premier amendement de la Constitution américaine, c'est que la liberté est absolue, la liberté d'expression est absolue, c'est-à-dire que j'ai un droit absolu à pouvoir dire publiquement ce que je veux dire. Nous avons une tradition qui est, en France, sur le plan juridique, plus restrictive en la matière, qui est plus régulatrice, vraisemblablement aussi. Le sujet aujourd'hui, il est d'autant plus brûlant que les conditions de fonctionnement de l'espace médiatique, ce qu'on appelle l'espace public, ont considérablement évolué, puisque l'émergence d'Internet, l'émergence des réseaux sociaux fait que le débat est beaucoup plus désintermédié et que tout un chacun a la faculté ou non de pouvoir s'exprimer de manière très libre et de propager parfois des propos qui sont des propos difficilement recevables, mais qui néanmoins adviennent à avoir une existence par l'existence tout simplement d'un certain nombre de nouveaux dispositifs techniques comme les réseaux sociaux. Donc cette réalité-là aujourd'hui, c'est une réalité qui vient profondément nous bouleverser, qui vient profondément nous percuter, et en même temps c'est vrai qu'il existe des tentations, parfois on le voit sur le plan politique, d'essayer de toujours plus se contraindre ou restreindre le débat public à une seule expression qui serait la seule expression légitime. Donc on a aussi cette tension qui est une tension qui est aujourd'hui très forte dans les démocraties libérales, alors de manière très différenciée encore une fois selon les traditions juridiques et politiques de ces différentes démocraties. Encore une fois, entre les anglo-saxons et les français, il y a une grande différence de ce point de vue-là, en tout cas une différence. Mais c'est un sujet qui est de plus en plus important, et c'est vrai que nous, on a fait faire un sondage à l'occasion de l'événement, encore une fois, que je citais tout à l'heure à Saint-Raphaël, à l'occasion de la sortie de ce numéro, sur l'expression, sur le ressenti des Français par rapport à la liberté. Et ce sondage, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'aujourd'hui, une dominante, plus de 60% des Français considèrent que nous sommes en régression sur le plan des libertés. Ils voient les plus grandes menaces aujourd'hui peser notamment sur la liberté d'expression, sur la liberté d'opinion. Donc on voit bien qu'il existe aujourd'hui un sentiment qui s'est créé dans l'opinion publique comme quoi finalement les libertés ou la liberté au sens large n'était plus quelque chose qui allait de soi et qu'il fallait la protéger parce qu'elle serait menacée par un certain nombre de censures par exemple ou de formes de censure.
Et ça renvoie peut-être aussi, c'est ce qu'on disait avec Christophe Ebart, à une crise des sociétés démocratiques où finalement une des libertés fondamentales acquises, c'est la liberté de choisir ses dirigeants, de voter, mais le sentiment que les gens ont encore ce choix-là, mais que derrière, finalement, ils ont plus vraiment la liberté de choisir les contenus et la définition de l'intérêt général qui, aujourd'hui, est devenu un monopole de l'État ou de ses représentants.
Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet, et de l'État, et encore parfois même pas de l'État.
Et même parfois d'une partie d'État.
Très souvent, la perception qui émane d'un certain nombre de segments de l'opinion, c'est que l'État, qui est finalement le garant de la souveraineté et de l'espace de délibération politique, et lui-même dessaisi de sa capacité à décider, et que les décisions se prennent dans des instances qui ne sont pas les instances classiques de l'État-nation, dans d'autres instances, l'Union européenne, voire un certain nombre d'organisations internationales comme le FMI, voire parfois même dans des instances qui sont des instances privées comme les GAFAM, entre autres. Donc il y a cette idée, en effet, qu'aujourd'hui, le politique, dans son expression, j'allais dire libérale, est dessaisi de sa capacité à non seulement pouvoir produire des politiques qui sont parfois des politiques alternatives, mais aussi... il est dessaisi dans sa capacité à délibérer. Donc c'est un sujet en effet qui s'impose de plus en plus, qui est lié récemment à la crise de la représentation aussi, mais aussi au fait que vous avez, disons, des conceptions de l'organisation politique qui sont de plus en plus techniques et qui pensent que les solutions techniques, de toute façon, sont neutres par nature et que ces solutions doivent s'imposer au peuple, quel qu'il soit. La réalité, c'est que à quoi nous sommes en train d'assister dans un certain nombre de pays, et même dans la vie politique française, avec notamment, on voit bien, par exemple, la gauche, mais aussi à droite, une remise en question de cette, finalement, façon de concevoir la politique comme étant articulée autour d'un seul contenu politique. C'est vraiment la question aujourd'hui qui se pose, la question du contenu des alternances, de la légitimité des alternances qui se pose à travers la question que vous posez, notamment.
Merci Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et que on a consacré cette émission au sujet abordé de manière un peu plus vaste que nous n'avons pu le faire dans cette émission, mais quand même, on a parlé de beaucoup de sujets. Aimons-nous encore la liberté ? C'était le sujet du dernier numéro de la revue. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Et puis, je souhaite aux auditeurs une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.